Pour bien comprendre, il faut revenir à ce moment épicentre d'un choc qui a ébranlé la démocratie américaine, l'envahissement par la foule du Capitole le 6 janvier 2021, la colère des manifestants qui enfoncent les portes du bâtiment enroulées dans leurs drapeaux autant que dans leur furie, et quelques heures plus tôt, derrière un plexiglas, le discours de Donald Trump.
Personne ici ne veut voir notre victoire électorale volée par les démocrates de gauche radicale, car c'est ça qu'ils font. Volée par les fake news médias. Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais. Ça n'arrivera pas. Vous ne concédez pas quand il y a un vol.
Quand Donald Trump prononce ces mots, il est encore président pour quelques jours. Dans la foulée, les manifestants envahissent le Capitole. Depuis lors, une question demeure. Donald Trump, ce jour-là, a-t-il poussé les manifestants? A-t-il tenté de renverser l'élection? A-t-il comploté pour s'accrocher au pouvoir en usant de mensonges et d'intimidations qui ont conduit à des actes de violence dans l'enceinte du Congrès américain?
Ouais, et pour le savoir, un procureur spécial a été nommé.
Oui, il s'appelle Jack Smith, il a mené l'enquête, et au mois d'août dernier, ce procureur spécial a estimé qu'à toutes ces questions, la réponse était oui.
Today, an indictment was unsealed.
Aujourd'hui, un acte d'accusation a été dévoilé, accusant Donald Trump de complot en vue d'escroquer les États-Unis, de complot en vue de priver les électeurs du droit de vote et de complot en vue d'entraver une procédure officielle.
Au mois d'août, Donald Trump est donc inculpé. Ce sont des faits très graves qui doivent être jugés au pénal. Donald Trump va donc devoir passer devant un tribunal avec un jury populaire lors d'un procès. C'est en tout cas ce que prévoit la justice américaine. Or, ça ne l'arrange pas parce que s'il est jugé coupable, il pourrait être déchu de ses droits civils et politiques, et donc ça l'empêcherait de se représenter à l'élection présidentielle. Alors Donald Trump et ses avocats ont une idée, ils déposent une demande d'immunité pénale devant une cour d'appel fédérale de Washington. Puisqu'il était président au moment des faits, estime-t-il, Donald Trump doit bénéficier de l'immunité. Son statut de président fait qu'il n'était pas pénalement responsable au moment des faits.
Mmh. Cette cour d'appel de Washington, elle doit donc répondre à une question qui est totalement inédite.
Oui, est-ce qu'un président qui commet une infraction pénale dans l'exercice de son mandat peut bénéficier de l'immunité? En 236 ans, en 46 présidents, la question ne s'était jamais posée. Aucun d'entre eux n'avait commis d'infraction pénale, en tout cas connue, pendant la durée de son mandat. Eh bien, la Cour d'appel a dit hier que Donald Trump ne pouvait pas bénéficier de l'immunité. Le texte du jugement dit ceci. Il a été rédigé par trois juges, dont des démocrates et des républicains. Nous ne pouvons pas accepter l'affirmation de l'ex-président Trump selon laquelle un président disposerait d'une autorité illimitée pour commettre des crimes susceptibles de neutraliser la forme de contrôle la plus fondamentale du pouvoir exécutif, à savoir la reconnaissance et la mise en œuvre des résultats des élections. Nous ne pouvons pas non plus cautionner, disent les juges, son allégation manifeste selon laquelle l'exécutif aurait carte blanche pour violer le droit des citoyens à voter et à ce que leur vote soit pris en compte. Par cette décision d'une cour d'appel fédérale, donc Donald Trump doit être considéré face à la justice comme un citoyen et pas comme un président des États-Unis. Ce que disent les juges derrière, c'est que si ils accordaient l'immunité présidentielle à Donald Trump, cela ferait s'effondrer le système de séparation des pouvoirs en plaçant le président hors de portée des trois branches du pouvoir. On voit à quel point la prise du Capitole, l'assaut du Capitole a été un séisme dont l'onde de choc questionne profondément le fonctionnement de la démocratie et des institutions américaines.
Du coup, arrive la question qu'on pose à chaque épisode de cette grande saga judiciaire. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'élection à venir?
Plus le temps avance, plus les élections se rapprochent, plus la question se pose de manière brûlante. Alors, on peut dire deux choses. Un, cette décision rouvre la voie un procès pour tentative d'inversion illégale des résultats de l'élection de 2020. La justice peut replanifier un procès puisqu'il n'y a pas d'appel pendant, mais Donald Trump peut encore aller en appel, notamment devant la Cour suprême. Il peut encore jouer la montre, comme on dit, faire durer la procédure en espérant qu'elle traîne au-delà du 5 novembre 2024, date des élections américaines.
Explication très claire et nécessaire hein, pour bien comprendre l'enjeu de ce qui se passe là aux États-Unis. Ça peut sembler très technique comme ça, mais évidemment, il y a une bonne partie de notre avenir qui se cache dans ces détails techniques-là. On va à présent passer de la réalité à la fiction avec Jérémy Classe qui vient donc de publier son premier roman, un thriller intitulé L'Horloger aux éditions Héloïse d'Ormesson. Une intrigue qui démarre précisément dans l'Amérique de Trump. Pourquoi vous, en tant qu'auteur belge, pour votre premier roman, vous aviez envie précisément d'inscrire votre intrigue dans ce contexte-là que vient nous rappeler Hélène ?
Parce que je me souviens très très bien de l'irruption de Donald Trump dans le paysage politique américain. Tout le monde à l'époque, en 2014-2015, quand il a commencé sa campagne, pensait que c'était
un guignol,
que jamais il ne pourrait accéder au pouvoir. Et le fait qu'il remporte l'élection en 2016, ça m'a crucifié. Je me suis dit, mais où va-t-on ? Et effectivement, c'était un des premiers signes d'une bascule de tout ce qui allait faire l'information, de tout ce qui allait faire de la politique dans les années qui ont suivi.
Et en 2021, en fait, au moment de l'assaut du Capitole, là, le thriller, votre histoire, elle est en train de mûrir. Hein, et c'est vrai que vous voyez ces profils, parfois assez folkloriques, hein, qui investissent ce haut lieu du pouvoir américain.
Oui, les fameux Proud Boys, qui sont une milice suprémaciste, viriliste, des incels. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on peut évidemment détester dans les démocraties actuelles et qui sont véritablement mises en avant, adoubées par Trump. Et bon, voilà, c'était une des questions effectivement de Jack Smith à laquelle devait répondre Jack Smith, le procureur américain. Oui, évidemment que Trump a incité ces fameux Proud Boys et la foule à attaquer le Capitole.
Pourquoi se saisir de ça dans la fiction ? Parce que évidemment, je vais donner le pitch de votre thriller dans un moment, mais pourquoi est-ce que vous trouvez intéressant ? Pour un thriller, pour une intrigue policière, même si c'est pas tout à fait un policier le héros, mais inscrire ça dans cette réalité.
Parce que je pense que, ben voilà, très très modestement, en tant qu'auteur, on a un petit rôle à jouer et une forme d'engagement à émettre. Et ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en fait encore maintenant aux États-Unis, sincèrement, quand j'ai écrit le bouquin, j'aurais jamais imaginé que Trump ait la possibilité de se représenter. Donc voilà, on est en plein dans l'actualité, un petit peu malgré moi. Mais disons que il fallait que je puisse, par rapport à ça, imprimer ma marque et marquer mon opposition par rapport justement à tout ce suprémacisme et à toutes les idées que véhicule le Trumpisme.
C'était votre engagement en tant qu'auteur. Alors, voilà. Je pitch rapidement votre héros, il s'appelle Jacob Dreyfus et sa tête, elle est mise à prix après qu'il ait infiltré précisément une milice suprémaciste, les Aryan Blood. Le procès qui va s'en suivre coûte la vie à la femme de Jacob Dreyfus qui est assassinée, lui, il va devoir exfiltrer vers la France avec son fils sous une nouvelle identité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque 10 ans après, alors qu'il coule enfin des jours paisibles en Provence, un pays que vous connaissez bien aussi, un terroir que vous connaissez bien aussi, il apprend alors le décès de sa famille entière. Tous les membres de sa famille restés aux États-Unis meurent à la même seconde sans qu'on puisse relier leur décès. Alors, est-ce qu'on est toujours dans le mécanisme de vengeance ? C'est toute l'intrigue qui repose autour de ça. Qui est le mystérieux horloger ? Il faut arriver au bout des 450 pages pour comprendre. C'est de la fiction, mais c'est donc aussi votre regard sur les dangers qui pèsent sur la démocratie, dites-vous. C'est le reflet de mes enthousiasmes et de mes convictions, ai-je lu ?
Oui, c'est ce que je disais auparavant. On a ce rôle à jouer, effectivement. Donc c'est aussi des ressorts dramatiques et de thrillers assez passionnants. Voilà, évidemment... Trump, par exemple, tout ce qui se passe aux États-Unis, on parle de Trump, mais on parle aussi de Giuliani, de Steve Bannon, etc. Ce sont des personnages complètement hors normes qui sont, qu'on aurait pu croire même à l'époque tirés d'une fiction. Mm-hmm. Quand on dit que la réalité dépasse la fiction, là, avec Trump, c'est exactement ça.
Reflet de mes enthousiasmes et de mes convictions. Quand on parle d'enthousiasme, là, on parle plutôt de votre amour, précisément, pour la Provence, pour les produits du terroir.
Oui.
On parle pas mal de vin, de bonnes choses à manger dans ce livre, et c'est pas étonnant. Hein. Peut-être que certains connaissent votre nom parce que vous êtes chroniqueur culinaire, parce que vous avez longtemps été caviste dans une des plus belles caves du royaume.
Oui.
Et donc, évidemment, c'était important aussi que vos enthousiasmes soient présents dans le thriller.
Ouais, Stephen King qui a dit qu'il fallait écrire sur ce qu'on connaissait. Et bon, je n'ai pas vraiment cherché à appliquer ce précepte-là à proprement parler, mais à un moment donné, c'est mis à être évident que mes personnages avaient quelque chose de moi. Et ce quelque chose de moi, bah, c'est cet épicurisme qui se traduit chez eux et qui, d'un point de vue utilitaire aussi dans l'histoire, permettent des moments de respiration, parce qu'on est... Mmh. On parle aussi de... Voilà, il y a une triple temporalité dans le roman. On parle évidemment donc de 2009, c'est le moment où démarre l'intrigue. 2019, en plein trumpisme, mais aussi
Vous remontez à la Deuxième Guerre mondiale avec Auschwitz. Ouais.
Donc on a besoin de respirer et à un certain moment de suivre ces personnages dans des allées un petit peu moins sombres.
Pour un premier roman, un thriller de cette épaisseur, c'est pas évident, hein, parce que pour maintenir le lecteur en haleine jusqu'au bout, il faut du rythme, il faut... Ça veut dire que vous avez construit ça pendant longtemps ?
Ouais, il m'a fallu... Bon, c'est une idée que j'ai eue il y a 20 ans, avant qu'on parle de Trump, en tout cas, en tant que politique. Et donc, l'idée a mûri pendant très longtemps. Et après, il m'a fallu 2 ans, en gros, pour écrire le bouquin, le corriger.
Voilà. Et maintenant, entre les lettres et le vin, vos deux passions depuis longtemps, vous avez choisi, vous allez continuer à écrire.
Bien
maintenant
sûr,
que vous voyez que ce roman est bien accueilli, c'est...
C'est un rêve éveillé, ce qui se passe pour l'instant. Et... Oui, le deuxième est en voie de finition déjà. Et
ah oui,
voilà,
vous traînez pas.
On espère le sortir l'année prochaine.
On voit que les libraires ont un rôle important, hein, parce que ce sont eux qui font vendre les livres. Hein. Parfois, on croit que c'est les seules critiques dans les journaux, mais c'est les libraires qui font beaucoup vendre les livres.
Ouais.
Notre collègue Jérôme Collin en témoignait également. Lui, dans le roman Les Dragons, se vend très très bien pour le moment. Il remerciait aussi les libraires qui font un gros travail pour vous, les auteurs, surtout quand on voit la production de bouquins qu'il y a à toutes les rentrées, que ce soit la rentrée de septembre, la rentrée de janvier. C'est pas évident de se distinguer, et donc quand on a un petit carton, ça fait du bien.
Mais exactement, moi j'ai été caviste, et dans cette fameuse cave dont vous parliez, je l'appelais ma bibliothèque, cette cave. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les libraires, ça veut dire qu'on a un rôle de passeur, et sans les libraires, nos livres ne parviennent pas au public, tout simplement.
Mm-hmm.
Donc on a besoin d'eux, effectivement.
Vous comparez, c'est intéressant comme comparaison, je trouve, entre le vin et les livres. Parce que c'est vrai que souvent, quand on arrive dans une librairie, bah, soit on a une idée très précise de ce qu'on veut, même quand on... Mais quand on n'a pas d'idée trop précise, même si on est un lecteur assez assidu, c'est pas toujours simple de s'y retrouver, comme quand on aime le vin et qu'on arrive dans une grande cave.
C'est exactement la même chose. Vous avez une étiquette pour le vin, une couverture pour le bouquin.
Mais c'est vrai que les meilleurs livres sont ceux qui peuvent se conserver longtemps.
en plus, ceux qui vieillissent bien.
Ceux qui vieillissent bien.
Oui, tout à fait.
Merci.